Frères et sœurs bien-aimés, depuis ce matin, une question vous taraude quand vous êtes brossé les dents. Mais pourquoi appelle-t-on Marie Mère de Dieu ? Dieu est incréé, est éternel. Comment peut-il avoir une mère ? Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question, puisque le concile d'Éphèse, puis le concile de Chalcédoine au 5e siècle, ont réfléchi et ont débattu sur ces questions et nous ont apporté la réponse. La réponse, c'est que parce qu'elle est mère du corps, elle est mère de, selon la chair, du Christ qui est fils de Dieu, on peut appeler à juste titre Marie, mère de Dieu. D'une certaine manière, la fête de ce jour nous invite à réfléchir sur la place du corps dans notre foi chrétienne et singulièrement dans notre foi catholique. Parce que nous sommes face à un dilemme, voire à une contradiction. D'une certaine manière, on voit qu'il y a une exaltation du corps. Nous sommes par définition la religion du corps. Nous sommes la religion de l'incarnation. Et vous voyez, on parle du corps dans la foi catholique de partout. Je veux dire, le corps eucharistique et le corps mystique, le corps qui est l'Église. Saint Paul prendra la comparaison justement pour l'Église par rapport au corps, etc., avec les articulations, les différents membres. Bon, bref, nous sommes la religion du corps. Et à la fois, une vision négative du corps s'est développée et s'est insinuée dans la pensée chrétienne et la pensée catholique, déjà avec notre cher Saint Paul, qui est influencé, on peut penser que ça vient de là, par les néoplatoniciens, qui justement pensaient que pour s'élever spirituellement, il fallait sortir de cette prison qui était le corps prison de l'âme, vous connaissez certainement cette question-là. Et donc du coup, plus on est spirituel, moins il faut être charnel. Mais pas seulement lui, mais ensuite, après la cessation des persécutions romaines, avec la conversion de Constantin, eh bien, il y a eu l'exaltation de la chasteté, de la virginité, de la vie monastique. Et grosso modo, c'est ce que dit saint Paul déjà avant, il dit, ceux qui brûlent, qu'ils se marient, mais les parfaits, ce sont les moines, ce sont ceux qui se consacrent dans la chasteté et la virginité. Et donc on voit, il y a une sorte de contradiction, il y a à la fois une exaltation du corps et à la fois ce côté négatif. Il faudra attendre le XXe siècle avec Jean-Paul II pour nous sortir de cette ornière. Parce que c'est une véritable ornière. Parce qu'on ne peut pas véhiculer à la fois une religion de l'incarnation, ce qui est notre cas, et puis laisser entendre qu'il y a quelque chose, entre guillemets, de sale dans le corps, et ce qui va avec aussi, la sexualité, et que, d'une certaine manière, voilà, cette confusion qui a été entretenue, eh bien, c'est Jean-Paul II qui a redonné des mots à l'Église pour redire la place du corps et la vocation du corps. C'est ce grand corpus qu'il a développé, qui porte le nom de théologie du corps. Alors, c'est quelque chose d'assez complexe et je n'ai pas du tout la prétention d'en faire l'exposé complet. Mais peut-être deux choses qui me paraissent intéressantes de retenir sur cette théologie du corps, cette vision du corps. D'abord, Jean-Paul II est parti de la personne humaine. Vous vous rappelez sa première encyclique, Redemptor Hominis, la personne humaine, lui qui est formé par les personnalistes. C'est-à-dire que sa personne humaine, qui est ce lieu évidemment de la révélation de Dieu, c'est le mystère de ce jour, c'est le mystère de Noël, eh bien, il a dit en fait deux choses qui me paraissent intéressantes par rapport au corps. Premièrement, le corps et l'âme sont unis. Le corps n'est pas simplement un amas de cellules. Et ça nous renvoie à d'autres questions, et d'où parfois l'incompréhension de la position de l'Église de la part de nos contemporains sur les lois de bioéthique. Parce que dire que le corps n'est pas simplement une amas de cellules, mais qu'il renvoie à la personne, qui a une unité du corps et de l'âme, eh bien, ça veut dire que le corps est plus que lui-même. Le corps a quelque chose à voir avec cette, la personne même. Et de fait, la première chose que nous rencontrons quand on rencontre une personne, ben c'est d'abord son corps. Le corps dit la personne. Il ne dit pas simplement une réalité biologique. Le corps dit la personne, c'est le mystère de ce jour. Marie, Mère de Dieu, c'est, dit autrement, le corps dit la personne. Le corps de Jésus dit ça, la personne divine qu'il est. Et ensuite, une autre chose que l'on peut retenir de cette théologie du corps selon Jean-Paul II, c'est le corps est fait pour la communion. Le corps a une vocation. Le corps a une vocation. Et donc, il a redonné des lettres de noblesse aussi à la sexualité, de dire dans l'union intime des époux, c'est la communion des époux qui se joue. Mais ça va bien au-delà de cette union intime. Ça va aussi dans la réalité de nos vies, aux uns et aux autres. La manière dont je me connecte à mon propre corps dit aussi la manière dont je me connecte aux autres. Parce que c'est le premier lieu de contact, c'est le premier lieu de communion. Alors, évidemment, le corps du Christ, c'est le lieu de la communion avec Dieu, et puis le corps de Jésus, de nouveau-né, mais aussi le corps de Jésus eucharistique, c'est ce lieu de communion. Et quand on voit le corps qu'est l'Église, c'est aussi le lieu de communion. Donc c'est intéressant de dire que la fête de ce jour nous invite à réfléchir sur le rapport que nous avons avec notre propre corps, qui n'est pas un rapport aisé. Qui n'est pas un rapport aisé parce que il y a des tensions dans notre corps, il y a des choses que l'on n'arrive pas à contrôler. Il y a parfois des images négatives véhiculées par nos éducations qui font que nous n'avons pas ce rapport justement de voir que, premièrement, il n'y a rien de sale dans le corps humain. Tout le corps humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, de redire aussi que cette vocation du corps a à voir aussi avec l'éternité, le corps glorieux. Et que nous sommes invités, à travers le regard que nous avons sur notre enveloppe charnelle, à découvrir quelque chose du divin. Et Jean-Paul II ira très loin dans cette lignée-là, puisqu'il dira... Dans l'union intime des époux, il y a quelque chose du divin qui se joue. Il y a quelque chose du transcendant qui est présent. Donc on est très loin d'un saint Augustin qui disait « Mariez-vous, c'est le remède à la concupiscence. Vous ne tenez plus, mais voilà, mariez-vous. » Donc ça veut dire aussi toute une vocation du mariage. On sait que Jean-Paul II a beaucoup travaillé sur cette question-là. La vocation du mariage qui est aussi en lien, parce que c'est en lien avec le corps, par définition. Mais au-delà du mariage, nous comme consacrés, ça nous dit aussi quelque chose, la réflexion de Jean-Paul II. On ne se consacre pas parce qu'on a une image négative du corps ou parce qu'on a peur de notre sexualité. On ne se consacre pas au Seigneur parce que au fond on a quelque chose à se reprocher et qu'on voudrait quelque part récupérer, purifier par la consécration. On voit bien que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives aussi dans l'Église de voir la consécration comme un remède. Mais non, la consécration c'est une expression de l'amour. Il y a deux expressions de l'amour, l'amour matrimonial et familial qui est un amour privilégié et l'amour des consacrés, qui est un amour universel. Mais les deux impliquent le corps. Vous voyez, donc c'est intéressant de réfléchir sur ces questions en cette fête de Marie, Mère de Dieu, parce que c'est justement le corps qui est au cœur même de ce mystère, de tout le mystère de Noël, évidemment. Nous sommes dans l'octave de Noël, c'est au cœur même de ce mystère, mais particulièrement Marie, Mère de Dieu. C'est ce corps de Jésus qui va expliquer la dignité de Marie, Mère de Dieu. Et du coup aussi, c'est intéressant de dire que toutes les grâces que Marie a reçues, c'est en vertu de ce mystère que nous célébrons aujourd'hui. En fait, c'est en vertu d'une juste position du corps. Toutes les grâces, que ce soit l'Immaculée Conception, que ce soit l'Assomption, où elle est avec son corps et son âme auprès du Seigneur, ça vient de la maternité divine, qu'elle est mère de Dieu. Et donc, si nous avons, nous aussi, parfois des difficultés avec notre propre corps, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit avec la pandémie le corps de l'autre comme une menace, et il n'y a plus que les écrans qui peuvent devenir tactiles, parce que sinon, il faut garder toutes les formes de distanciation extraordinaire. Mais c'est intéressant. Il ne faudrait pas que ça nous fasse rentrer après une hypersexualisation du corps, etc., rentrer dans une méfiance. Le corps de l'autre est une menace pour moi, parce que ce n'est pas non plus la position chrétienne. Vous voyez, donc, trouver la juste mesure est quelque chose qui pour nous, on le voit en contemplant Marie, mais justement, si on a des difficultés dans sa relation avec son propre corps, le corps aussi qui peut être vieillissant, le corps qui peut être frappé de maladies, etc., eh bien, je trouve que la dimension mariale de nos vies a à voir avec une acceptation de notre corps. Et c'est certainement cette intimité avec Marie qui nous donnera la bonne place. Ni trop, ni trop peu. Ce juste milieu, cette vérité sur le corps humain qui a à voir aussi avec la gloire de Dieu. C'est cette grâce qu'on va demander les uns pour les autres, parce que c'est un chemin, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de s'accepter soi-même, d'accepter ce que l'on est, d'accepter un corps qui est limité, un corps vieillissant, d'accepter un corps malade, d'accepter son corps tout simplement, même s'il est jeune tel qu'il est. Certains ont plus de difficultés que d'autres. Eh bien, on va demander, en vertu même des grâces que Marie a reçues, parce qu'elle a une juste vision du corps, eh bien, on va lui demander cette grâce aussi, de découvrir notre corps comme un témoin de l'amour et de la gloire de Dieu. Amen.